Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis la levée des sanctions internationales à l'encontre de l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, les entreprises de tous les pays se bousculent pour faire des affaires avec Téhéran. C'est le cas notamment du français Orange, qui serait sur le point de trouver un accord avec l'opérateur télécom iranien MCI. Pour tenter de pérenniser ces relations nouvelles, le chef d'orchestre franco-iranien Pejman Memarzadeh propose d'accueillir en France chaque année une vingtaine d'étudiants iraniens à fort potentiel. Il lance pour cela un appel aux grandes entreprises qui auraient tout à gagner dans un tel partenariat. Le nouveau gouvernement tunisien est entré en fonction cette semaine. Il compte 8 femmes, dont Samira Merahi, qui passe du portefeuille de la famille et de l'enfance à celui de la santé. Elle avait beaucoup œuvré ces dernières années pour promouvoir l'autonomie des femmes. On retrouve également cette semaine notre revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Renforcer les liens entre la France et l'Iran par le biais de la formation académique, c'est le projet que porte le directeur musical de l'Orchestre de l'Alliance, Pejman Memarzadeh. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans et vous vouliez renforcer les contacts entre vos deux patries, d'où cet objectif d'un programme spécial d'accueil en France d'étudiants iraniens à fort potentiel. Expliquez-nous exactement en quoi consiste ce projet.
Mais écoutez, comme beaucoup de franco-iraniens et beaucoup d'iraniens qui sont répartis dans le monde depuis la révolution islamique, on a beaucoup souffert, je crois, ces 35 dernières années de l'image, on peut dire déplorable, qu'a véhiculé l'Iran, à tort ou à raison. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase historique où la communauté internationale et l'Iran, je crois, ont souhaité marquer une nouvelle étape. Une étape très importante dans la reconstruction de relations. Moi, je n'ai pas attendu ces accords qui ont été signés récemment pour me dire, effectivement, comme citoyen, qu'est-ce que je peux apporter au rapprochement entre mes deux pays, mon pays d'origine et mon pays d'adoption. Et depuis plus de 2 ans, j'ai réfléchi à des modalités qui permettraient de tisser des liens, je dirais indestructibles, des vrais liens à très long terme. Et de la même manière que je suis devenu français parce que j'ai grandi en France et que j'ai étudié à l'école républicaine, je me suis dit que le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de la France mais aussi, je dirais, à construire des liens qui vont préserver les intérêts de chacun et préserver une relation à long cours, eh bien, c'était de capitaliser sur la jeunesse et la formation des jeunes. Donc effectivement, l'idée, c'était de se dire, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi, ça a été compliqué, parce que je voulais... il ne s'agissait pas de faire venir des Iraniens pour, entre guillemets, voler de la matière grise iranienne. L'Iran forme des ingénieurs de très très haut niveau. En revanche, je me suis dit, et on sait que l'Iran a un problème plutôt en termes de management, ils ont pas les mêmes écoles de management que nous, et que de ce point de vue-là, on peut dire que la France a des écoles d'excellence, elle en a plusieurs, qui peuvent absolument accompagner, je dirais, la reconstruction de à la fois de l'Iran, mais la reconstruction, je dirais, des relations bilatérales. Et donc, l'idée est effectivement de trouver, de réunir un certain nombre d'entreprises françaises qui sont des grandes entreprises, des pôles d'excellence françaises, et il y en a dans tous les domaines, et de dire, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord de financer, par exemple, 3 boursiers par an? Et puis, naturellement, j'ai pu en rencontrer quelques entreprises qui m'ont fait part de leur intérêt pour cette initiative. On en est au tout début, mais l'idée, c'est de dire, écoutez, vous financez les bourses de ces étudiants pour 1 an ou 2, ensuite, vous pouvez les prendre en interne, les former en stage, ou en les former, tout simplement, et puis, vous pouvez aller, avec leurs compétences et ce double bagage culturel, travailler en Iran, développer votre entreprise, développer vos parts de marché, contribuer à reconstruire ce pays, mais dans une relation réellement gagnante-gagnante avec des passerelles.
Oui, l'idée n'est pas de garder ces étudiants ensuite en France ou en Europe, mais qu'ils repartent et qu'ils participent à ce pont entre l'Europe et l'Iran.
Absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que je trouvais ça très important aussi d'avoir des étudiants qui soient effectivement déjà diplômés, qui viennent faire une sorte de MBA en France. C'est un troisième cycle, en fait. Le principe, c'est qu'ils viennent faire un troisième cycle en France, qui puissent réellement s'imprégner de cette culture française, qui a quand même perdu également un petit peu, pendant toutes ces années, son rayonnement au détriment, malheureusement, de tout ce qui est de la civilisation anglo-saxonne, d'un point de vue business, mais également d'un point de vue langue. Donc, je pense que la France, elle doit absolument réinvestir ce champ-là, qui est le champ, je dirais, de la culture, du rayonnement, de la civilisation, du raffinement, de la gastronomie, du luxe, de plein de choses qui sont très françaises, dont les Iraniens sont à la fois très friands et auxquelles les Iraniens sont très sensible.
Combien d'étudiants seraient concernés ?
Notre objectif, donc je suis accompagné, d'ailleurs je tiens à saluer François Nicolau, l'ancien ambassadeur de France, qui est en poste en Iran, qui m'accompagne très activement sur ce projet. Patrick Lucas également, qui est un grand ami et qui également est vice-président du MEDEF international, qui nous accompagne bénévolement dans cette démarche. Tous ces gens sont des amis de l'Iran. L'idée, c'est effectivement d'accueillir une vingtaine d'étudiants boursiers par an, dans un premier temps, et puis voir comment ça peut se développer. Voilà, mais c'est un projet assez ambitieux.
Financé par les grandes entreprises ?
Oui, effectivement. Les bourses seront financées par des grandes entreprises françaises. On a évalué qu'il fallait 7 ou 8 entreprises françaises qui seraient les principales mécènes qui financeraient ces boursiers. Et naturellement, j'ai pu rencontrer effectivement le Quai d'Orsay, le directeur Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui a perçu ce projet avec un accueil extrêmement chaleureux. Puis l'ambassade de France à Téhéran, qui voit ça d'un excellent œil aussi. L'idée, c'est effectivement d'utiliser l'existant, c'est-à-dire que il existe beaucoup de choses qui sont extrêmement avec beaucoup de potentiel, mais les mettre en mouvement et puis de l'accompagner avec cette dimension un peu culturelle aussi, musicale, il pourra y avoir un concert par an une fois pour fédérer tout cet écosystème, que ce soit les étudiants, les entreprises mécènes, les amis de la relation franco-iranienne, et également on a prévu d'envisager aussi d'aller faire probablement peut-être tous les deux ans une petite tournée qui symbolise ce rapprochement pour que tout le monde puisse bénéficier de cette construction qui est à la fois académique et culturelle.
À quel horizon ce programme ?
Écoutez, toutes les sanctions ne sont pas levées, les entreprises sont en fait dans les starting blocks, mais sont en train de préparer leur retour. Il est difficile aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont au courant de notre projet et trouvent ça un excellent projet d'accompagnement, mais si je me mets à leur place, la priorité pour elles, c'est de préparer leur retour avant d'envisager de dépenser des sous pour former des jeunes et puis préparer leur avenir. Mais je crois que tout ça, c'est concomitant et qu'on est dans un bon timing. Et en tout cas, nous y travaillons avec sérénité. On travaille pour le temps long. On n'est pas dans un temps politique. On est dans un temps, je dirais, d'investissement humain. Et donc, c'est un temps long.
Merci, Pejman Mehmarzadeh, directeur musical de l'Orchestre de l'Alliance, qui porte donc ce projet d'une vingtaine de boursiers iraniens à accueillir en France.
Merci à vous, en tout cas, d'en faire écho.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
En Tunisie, le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Youssef Chahed et regroupant pas moins de 9 partis politiques est entré en fonction mardi. 8 femmes font partie de l'équipe, parmi elles Samira Merahi, au portefeuille de la santé. Elle figurait dans le précédent gouvernement au poste de la famille et de l'enfance, ce qui lui a permis de beaucoup œuvrer en faveur de la femme tunisienne, comme elle nous le confiait récemment lors d'un déplacement à Barcelone.
Ce qu'on remarque justement, c'est que sur le plan législatif, sur le plan juridique, on a énormément donc d'acquis. Mais sur le plan pratique, ce qu'on voit, c'est que la présence des femmes est encore sur le plan surtout institutionnel. On les voit au pouvoir. Ça manque surtout en désaccord, en discordance avec sa situation et sa présence dans la société tunisienne. La femme tunisienne a une place importante dans la société tunisienne. Et en tant que ministre, justement, de la femme et de la famille, on a tout un programme. On a un programme d'abord pour ancrer. On est dans une démocratie naissante et on veut ancrer donc l'égalité entre hommes et femmes dans les politiques publiques du pays. D'abord, il faut institutionnaliser donc l'approche genre. Actuellement, on a un taux énorme donc de chômage chez les femmes qui est supérieur au double de l'homme. Ça signifie qu'on a avant une politique qui ne considère pas la femme. Et on a commencé à faire donc des points focaux genre, c'est-à-dire des représentants de ministères qui œuvrent pour l'égalité dans le budget. Et nous travaillons pour revoir aussi tous les textes de loi qui sont discriminatoires et qui sont actuellement anticonstitutionnels. Le troisième volet, c'est justement de travailler contre la violence. La violence a augmenté. Il y a les chiffres en 2010 qui montrent qu'on a 47,6% donc de taux de femmes qui ont été victimes de violences. Et ça, c'est un chiffre alarmant. Et on est en train de créer des centres de protection des femmes pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les prendre donc en charge sur le plan psychologique, mais aussi pour pouvoir lui donner aussi une autonomisation, pour lui permettre une autonomisation économique et sociale.
Alors justement, cette autonomisation économique, vous venez d'en parler, et sociale, elle passe peut-être aussi par des politiques volontaristes. Êtes-vous par exemple en faveur de quotas dans les entreprises, en faveur des femmes ?
Oui. Justement, le troisième volet, justement, c'est comment on travaille sur l'augmentation de la participation des femmes à la vie économique. Et malheureusement, les chiffres sont là qui montrent uniquement 25% des femmes qui sont actives en Tunisie. C'est-à-dire qu'on a trois quarts des femmes qui ne participent pas directement à la croissance économique. Et ça, c'est un manque à gagner. Et on a tout un programme, justement, d'améliorer et de promouvoir la participation économique des femmes par l'entrepreneuriat social, par les PME et aussi les PPP sociales, les partenariats public-privé social. Certes, on trouve la femme à plus de 50% dans le secteur donc public, mais on a très peu de femmes qui sont chefs d'entreprise, moins de 10%, c'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat. On n'apprend pas donc les femmes et on n'encourage pas les femmes à faire de l'entrepreneuriat, que ce soit à l'université ou dans la société. Et puis, il n'y a pas assez de soutien, il y a un manque d'informations. On a énormément donc de mécanismes, les mécanismes et les institutions financières qui favorisent et qui sont là donc à la portée donc des jeunes qui sont diplômés, mais les femmes ne les connaissent pas. Et puis évidemment, il y a l'accès financier des femmes qui est différent, qui est moins que par rapport à l'homme. C'est pas dans les textes juridiques, on sait qu'il y a l'égalité, mais le problème c'est la garantie. On n'a pas, la femme ne dispose pas de garantie pour pouvoir prendre donc des crédits et pour pouvoir prendre des prêts. La Tunisie a toujours été avant-gardiste à l'échelle, que ce soit à l'échelle maghrébin ou à l'échelle méditerranéen ou à l'échelle aussi arabe. On pense que le fait donc de développer l'entrepreneuriat chez la femme va avoir donc un impact sur l'économie durable et sur la croissance économique du pays.
Samira Merahi, qui passe du portefeuille de la famille et de l'enfance à celui de la santé dans le nouveau gouvernement tunisien. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et Michel, tout d'abord, ce qui intéresse la presse israélienne, c'est l'explosion d'une fusée de SpaceX sur son pas de tir à Cap Canaveral.
Oui, c'est le sujet qui fait la une de l'ensemble de la presse israélienne. L'explosion d'une fusée américaine, un missile qui devait mettre sur orbite un satellite israélien de télécommunication portant le nom de Amos 6. Le rêve et ses débris, titre Yedioth Aharonot, aux côtés d'une photo de l'explosion. Pour Israel Hayom, journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre israélien, ce sont des années d'investissement qui ont explosé au sol, une déflagration unique, mais des pertes multiples, c'est le titre de l'édito du quotidien. Un coup pour l'aérospatiale israélienne, affirme Haaretz, et Mariv, lui, avance un chiffre, 200 millions de dollars, et rappelle que le satellite devait fournir l'accès à l'Internet rapide à de nombreux pays africains par l'intermédiaire de Facebook. Israël risque de perdre un énorme marché en Chine suite à cet incident. Les commentateurs à l'unanimité rejettent le scénario de l'attaque cybernétique et plusieurs journaux citent un haut responsable du programme spatial israélien. Pas question pour Israël de rester sans satellite sur orbite.
Et sur le plan intérieur, Michel, le pays vit crise sur crise.
Oui, la nouvelle crise est liée à une décision de la Haute Cour de justice israélienne d'ordonner la destruction de 17 maisons construites illégalement dans une colonie de peuplement au sud de Jérusalem, des structures qui sont en place depuis 15 ans. L'aile droite du gouvernement fulmine, la gauche, elle, applaudit des deux mains. Et les journaux donnent le détail de ces réactions. Et puis l'autre crise en est à sa seconde semaine, la guerre ferroviaire du Shabbat, avec un rebondissement ce week-end. Il est qualifié par la presse d'ailleurs de la capitulation de Benjamin Netanyahou. Pas de travaux sur les voies ferrées le jour du Shabbat. Le Premier ministre cède devant les ultra-orthodoxes qui menaçaient de démanteler la coalition gouvernementale. Les réparations auront lieu le vendredi matin et le samedi soir. Le trafic ferroviaire, lui, sera immobilisé. Pour Yedioth Aharonot, qui en fait sa manchette, Netanyahou ne se soucie guère des soldats en permission. qui sont les principaux utilisateurs de ce mode de locomotion ces jours-là.
Alexandre Bouchanti, la presse arabe se fait, elle, l'écho de l'insatisfaction palestinienne à l'égard des déclarations américaines sur les colonies israéliennes.
Oui, pour les Palestiniens, les critiques américaines sont de pure forme et rien dans le contenu. Alors les journaux reprennent les déclarations de Nabil Abou Redena, le porte-parole de la présidence de l'autorité palestinienne, qui demande des actes et non des paroles afin de forcer le gouvernement israélien à arrêter la construction des colonies de peuplement. Une activité qui, selon lui, menace tous les efforts déployés pour relancer le processus de paix. Quant à Ahmad Majdalani, du comité exécutif de l'OLP, il est allé, lui, plus loin. Il a réclamé des sanctions contre Israël et non de simples condamnations verbales qui, selon lui, sont perçues par Israël comme étant une sorte de feu vert implicite. Les Palestiniens réclament une fois de plus une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, même s'ils savent que Washington bloquera cette tentative.
Et puis les journaux saoudiens et égyptiens font état, Alexandre, d'une querelle entre des oulémas de l'islam.
Oui, une querelle de minaret entre les oulémas d'Arabie Saoudite et ceux qui s'étaient réunis à Grozny en Tchétchénie et qui viennent pour la plupart des ex-républiques soviétiques à majorité musulmane. Alors les oulémas ex-soviètes ont décrété que les djihadistes Daesh, le groupe État islamique, étaient des khawarij, c'est-à-dire des schismatiques excommuniés de l'islam sunnite. Pour les oulémas saoudiens, de telles déclarations sont de nature à diviser les musulmans sunnites en partis et factions qui affaiblissent l'islam. La grande mosquée d'Al-Azhar en Égypte avait de son côté refusé de déclarer les djihadistes Daesh comme étant des mécréants. Ils commettent des crimes que l'islam réprobe, mais n'ont pas renié leur foi, disait en substance Al-Azhar.
Michel Paul, des réactions en chaîne après des déclarations du chef de la police israélienne.
Roni Alsher a provoqué le tollé en affirmant qu'il était naturel que les membres de la communauté éthiopienne soient particulièrement dans le collimateur des policiers. On le voit dans une caricature en train de peindre les murs en noir. Un député d'origine éthiopienne affirme que pour la première fois, un haut responsable israélien reconnaît ouvertement que le pays est raciste. Finalement, Eric, le chef de la police, a présenté ses excuses. Tout rentre dans l'ordre. Jusqu'à la prochaine bévue, elles se sont multipliées depuis la nomination de Roni Alsher il y a tout juste un an.
Alexandre, Al-Quds Al-Arabi traite par le sarcasme l'absence depuis des années d'un président pour le Liban.
Oui, faisant référence aux origines libanaises du nouveau président brésilien, Michel Elias Temer, qui a succédé à la destituée Dilma Rousseff, le journal écrit « Le Brésil s'est doté d'un président libanais ». De quelle nationalité sera le président du Liban ? Alors, il faut rappeler que le poste de président de la République libanaise est vacant depuis le 25 mai 2014, quand le mandat de Michel Slimane est arrivé à terme. Et depuis lors, les partis et factions libanaises ont échoué dans toutes les tentatives de choisir un président, en fait, plus d'une quarantaine de fois. Alors, selon le complexe système multiconfessionnel libanais, le pouvoir est partagé entre un président chrétien maronite, un premier ministre musulman sunnite et un président du parlement musulman chiite.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Et ce sont des photos qui illustrent la rentrée des classes en Israël, plus particulièrement dans une école du sud de Tel Aviv, qui devrait en principe recevoir exclusivement des enfants de migrants, pour la plupart africains. Une initiative de la ville de Tel Aviv qui provoque une controverse et qui est notamment contestée par le premier ministre lui-même.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, Mathias Taylor. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons le pèlerinage à la Mecque. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.